Décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous dans Décryptage. Ce soir, quelle gouvernance pour Gaza après la trêve avec Israël ? C'est la grande inconnue de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur dimanche dernier. Qui pour gouverner Gaza en ruine après la guerre ? La question cruciale reste en suspens alors que l'idée d'une administration unique avec la Cisjordanie est rejetée par Israël. Seul point d'entente entre l'État hébreu, l'autorité palestinienne et Washington. Pas question que le Hamas, l'auteur des massacres du 7 octobre, participe à cette future gouvernance. Le mouvement islamiste palestinien très affaibli après 15 mois de guerre contre Israël, mais loin d'avoir été anéanti et qui entend bien à compter peser dans l'avenir de Gaza. De quoi possiblement compliquer l'instauration de la paix. On en parle ce soir avec nos invités, toutes deux spécialistes du Proche-Orient. À mes côtés dans ce studio, Agnès Levallois, vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, auteur du Livre noir de Gaza, paru aux éditions du Seuil. Bonsoir.
Bonsoir.
Et en ligne avec nous, Stéphanie Latt-Abdallah, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la question palestinienne et auteur également d'un ouvrage à paraître, Gaza, une guerre coloniale, aux éditions Actes Sud. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous sur RFI. Alors, on l'a dit que la trêve semble encore fragile à Gaza, Agnès Levallois. Est-ce que la mainmise qui perdure, cet ancrage du Hamas sur Gaza, constitue un défi, sinon le premier défi pour la mise en œuvre d'un cessez-le-feu permanent ?
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Hamas est présent encore dans la bande de Gaza, en dépit de toutes les déclarations des Israéliens et de l'objectif de guerre qui avait été fixé par Netanyahou, selon lequel il s'agissait d'éradiquer ce mouvement qui existe. Le Hamas est encore présent et donc continue à négocier dans le cadre de ce cessez-le-feu avec les trois phases qui ont été prévues. Et donc on voit bien que Israël est contraint de négocier avec ce mouvement alors qu'il avait l'objectif de le faire disparaître de la terre. On voit bien que c'est un objectif qui n'est absolument pas réalisé et qui n'a en aucun cas été atteint. Donc oui, le Hamas est un acteur en tous les cas. Aujourd'hui, l'acteur avec lequel négocier les prochaines phases de cet accord, qui est un accord extrêmement complexe, qui dure surtout très longtemps, et donc avec le risque que cet accord dérape à tout moment, que ce soit du côté israélien comme du côté palestinien avec le Hamas. Donc oui, la situation est extrêmement complexe et ce défi est énorme à relever pour ceux qui sont en train de négocier.
Stéphanie Latt-Abdallah, pas de négociation possible sur le futur de Gaza sans le Hamas qui reste l'interlocuteur à Gaza ?
Écoutez, oui, comme vient de le dire Agnès Levallois, en effet, il est toujours présent, mais je pense que ce qui est important de souligner, c'est qu'il faut différencier plusieurs choses quand on parle du Hamas. Donc, le Hamas en tant que, on va dire, mouvement politique, le Hamas en tant que groupe militaire, les brigades Al-Qassam, et le Hamas en tant qu'administration de Gaza. Puisque finalement, depuis qu'il a pris le pouvoir en 2007, il a repris l'administration qui était là de l'autorité palestinienne, enfin la structure, mais il a constitué son propre corps de fonctionnaires, puisque les fonctionnaires qui étaient payés par l'autorité palestinienne continuent à être payés, mais sont restés chez eux pour la plupart d'entre eux depuis. Et donc, ce sont aussi des ministères, des fonctionnaires.
40 000 fonctionnaires quand même, c'est une administration.
Une police civile aussi qu'on revoit maintenant beaucoup dans les rues de Gaza, notamment pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire sans qu'il y ait de pillage, etc. Donc c'est aussi toute cette structure administrative, je pense, qui de toute façon a un rôle à jouer, puisqu'il faut bien des structures aujourd'hui pour à la fois reconstruire Gaza, mais surtout remettre en marche tout ce qui permet de vivre dans un pays, que ce soit la santé, l'éducation, etc., etc., et aussi permettre un minimum de sécurité.
Et comme le disait Agnès Levallois, c'est eux, en ce moment, après 15 mois de guerre, qui continuent à superviser à nouveau toute l'activité de l'enclave palestinienne, le déblaiement des gravats, la distribution même de l'aide humanitaire.
Bah, tout à fait. Enfin, c'est-à-dire que moi, c'est la police civile, c'est eux qui permettent aussi effectivement de la sécurité des convois et qui participent à cette aide humanitaire. Mais enfin, c'est surtout les organisations humanitaires qui, eux, elles distribuent. Donc à la fois le World Food Programme qui est très présent, mais aussi toujours l'UNRWA, mais l'UNRWA qui est vraiment aussi une autre administration, on va dire, de Gaza, hein, qui est extrêmement importante à Gaza, là aussi en termes de réseau d'écoles, de santé, de camions, d'infrastructures, etc., et qui, pour le coup, est mise en péril par l'interdiction posée par les autorités israéliennes, les lois qui ont été votées et qui doivent entrer en vigueur à la fin de ce mois. Donc ça, c'est une grosse interrogation aussi sur la continuité de l'aide humanitaire, mais pas seulement, hein, des services, des différents services éducatifs, santé, etc., et infrastructurels de la bande de Gaza, dans une situation évidemment qui est très complètement catastrophique à la sortie de la guerre et qui demande de mettre les bouchées doubles ou triples en ce qui concerne la remise en marche de tous ces services et l'acheminement de nourriture et de biens.
Alors, on l'a dit, Agnès Levallois, hein, le seul point d'entente entre Israël, l'autorité palestinienne et les Américains, c'est pas de Hamas dans la future gouvernance de Gaza. Que souhaite de son côté le Hamas? Est-ce qu'il souhaite continuer le rôle qu'il jouait jusqu'à présent dans la gestion
Alors,
de l'enclave palestinienne?
Un certain nombre de responsables du Hamas ont fait des déclarations selon lesquelles ils ne souhaitaient pas diriger la bande de Gaza comme ils le faisaient auparavant. Et ça, c'est un point important, puisqu'ils savent effectivement qu'il y a une forte opposition de la part d'Israël, mais également de l'autorité palestinienne. Et donc, leur idée, c'est de mettre en place un gouvernement qui rassemblerait plusieurs des Palestiniens, bien évidemment, mais pas que des membres du Hamas, même si il y aura forcément, en raison de ce que vient d'expliquer Stéphanie Latabdallah, c'est-à-dire que le Hamas a mis en place tout un réseau de fonctionnaires et donc de personnes qui sont à même de diriger, de relever les défis qui sont énormes, qui s'imposent aujourd'hui à la bande de Gaza. Mais le Hamas a eu, d'une manière, la prudence de déclarer qu'il n'était pas question, eh bien, d'exiger de tout seul diriger cette bande de Gaza.
Ça, ils l'ont compris. Mais oui, est-ce qu'ils accepteraient cette administration unique avec la Cisjordanie sous l'autorité de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas? Est-ce que le Hamas serait prêt à ça?
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est face à une situation où la bande de Gaza et la Cisjordanie sont complètement déconnectés, hein, l'un de l'autre. On voit deux territoires. Toutes les tentatives qui avaient eu lieu bien avant le 7 octobre 2023, qui consistaient à réunifier les Palestiniens au sein d'une direction commune, tout ça n'a absolument pas réussi à fonctionner. Qu'aujourd'hui, l'autorité palestinienne en Cisjordanie est complètement délégitimée aux yeux de nombre de Palestiniens de Cisjordanie. Donc la question aujourd'hui de réunifier, de mettre une gouvernance unique, me semble de toute façon, de certaine manière, complètement déconnectée de la réalité sur le terrain, où vous avez un territoire, la bande de Gaza, dévasté, avec donc tous les défis dont on a parlé qui sont considérables, et une Cisjordanie qui de toute façon commence, et de façon dramatique, à suivre le chemin de la bande de Gaza, puisqu'on voit les opérations qui sont menées actuellement, avec une autorité palestinienne qui est incapable de s'affirmer face à cela. Donc l'idée d'avoir une autorité palestinienne ou une gouvernance palestinienne réunissant les deux me paraît aujourd'hui vraiment, je répète, déconnectée de la réalité.
Pourquoi Israël s'oppose tant à cette administration unique, à Stéphanie Latabdallah?
Oui, alors peut-être pour rebondir déjà, en fait, le Hamas avait accepté assez rapidement une proposition égyptienne d'établir une commission de professionnels, une commission administrative en coopération avec l'autorité palestinienne pour Gaza. Donc c'est aussi la position égyptienne. Hein,
ça, c'est la position égyptienne, oui.
Oui, c'est la position égyptienne et elle est partagée par le Hamas. Donc, c'est-à-dire, en fait, avoir une commission, en fait, qui soit beaucoup plus gestionnaire, administrative, technocrate, en fait, qui permettrait de gérer tous ces défis qu'attendent Gaza. Donc, ils ont bien compris que là, on n'était pas au stade de garder cette mainmise politique, mais bon, plutôt de se mettre d'accord avec l'autorité palestinienne pour une gestion administrative et purement technocratique. Alors, pourquoi Israël est tellement opposé à cette présence de l'autorité palestinienne. Parce que déjà, aujourd'hui, l'autorité palestinienne, bien qu'il y ait eu un accord début décembre entre le Fatah et le Hamas pour former un comité pour administrer Gaza, en fait, malgré cet accord qui semble plus un accord de papier qu'une une réelle volonté côté autorité palestinienne, l'autorité palestinienne entend plutôt réinstaurer son propre pouvoir en fait à Gaza et gérer Gaza en tout cas pour le moment à la manière dont elle gère la Cisjordanie, alors qui est une manière autoritaire qui d'ailleurs devrait plus ou moins convenir à Israël techniquement puisque comme on l'a vu elle se charge de la coopération sécuritaire réprimer les groupes armés à Jenin avant que Israël le fasse, donc en fait elle sous-traite une partie des activités sécuritaire, enfin elle est le sous-traitant d'une partie des activités sécuritaires de l'armée israélienne, mais il n'empêche que le gouvernement Israël tel qu'il est formé aujourd'hui, qui est un gouvernement quand même guidé par l'extrême droite, il faut le rappeler, ne veut surtout pas entendre parler d'un État palestinien, et la crainte qu'il y ait une sorte de réunification d'une certaine manière entre Gaza et la Cisjordanie par la présence de l'autorité palestinienne lui fait craindre qu'ensuite la question de l'État palestinien sera reposée, et il ne veut absolument pas ça, il veut maintenir ces gestions séparées de ces deux espaces. Alors il faut dire que aussi bien côté Cisjordanie, il y a une énorme opposition à l'autorité palestinienne telle qu'elle est aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut là aussi distinguer l'administration qui gère la vie dans la Cisjordanie et l'orientation politique et l'autocratisme des dirigeants actuels de l'autorité palestinienne.
De Mahmoud Abbas.
De Mahmoud Abbas, de même que les Gazaouis, aujourd'hui, on voit dans les sondages qu'ils sont quand même, enfin, qu'ils sont contre le Hamas en tant que en tout cas, la popularité du Hamas a très, très, très nettement baissé, surtout à Gaza, suite évidemment à la destruction qu'a amené la guerre qui est conduite depuis 15 mois. Donc, en fait, dans les deux espaces, finalement, les dirigeants actuels sont relativement décriés et n'ont pas une assise populaire. Donc en fait, c'est tout ça pour dire que, au-delà d'une gestion administrative qui pourrait permettre de rétablir, de remettre sur pied la bande de Gaza, de commencer à reconstruire, de remettre en place des services, etc., au bout d'un moment se posera vraiment la question démocratique, puisqu'en fait, tout aussi bien les habitants de Gaza que la Cisjordanie sont vraiment en faveur aussi d'un processus démocratique. Alors pour les Gazaouis, une fois qu'ils seront sortis de cette situation absolument terrible, qui évidemment ils sont dans une urgence, et ensuite viendra cette question de la question d'une refondation démocratique pour avoir des dirigeants qui les représentent et qu'ils considèrent légitimes.
Alors c'était dans les cartons de l'administration Biden avant de partir, maintenant c'est l'administration Trump qui devra trancher, mais l'idée était également de mettre en place une administration internationale temporaire, sans doute le temps que puisse se conduire la réforme nécessaire de l'autorité palestinienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça, c'est une solution dans le côté temporaire qui pourrait permettre de gérer l'enclave de Gaza?
Alors ça, c'est une idée effectivement qui est régulièrement mise en avant par certains, par un certain nombre de diplomates qui estiment que dans l'état actuel de la situation, il est impossible à l'autorité palestinienne, et comme vient de l'expliquer Stéphanie Latabdallah, effectivement cette autorité palestinienne qui est quand même sérieusement délégitimée, hein, qui n'est pas soutenue par une grande partie des Palestiniens, le Hamas qui lui aussi est remis en question par une grande partie des habitants de la bande de Gaza, et donc face à cette impasse de la représentation palestinienne, certains se disent que la seule solution, c'est de mettre en place une administration internationale qui permettrait de gérer l'immédiat l'urgence.
Sur le papier, ça tient. Hein. Il y aurait des Palestiniens de Gaza et des représentants de l'autorité palestinienne. choisi après consultation des populations de Gaza. Est-ce que ça, c'est juste beau sur le papier ou est-ce qu'on peut le mettre en œuvre réellement ?
Ça me paraît pour l'instant beau sur le papier, mais je ne suis pas du tout sûre qu'on soit en capacité aujourd'hui à mettre en œuvre cette proposition telle qu'elle est là. Je crois qu'il faut aussi la rappeler peut-être une chose. Aujourd'hui, la préoccupation de la population de Gaza, ce n'est pas toutes ces questions. La priorité, c'est quoi ? C'est que les Gazaouis puissent rentrer chez eux, leur donner les moyens de pouvoir retrouver un toit, puisque ça fait 15 mois qu'ils sont baladés d'un endroit à l'autre sans aucune ressource, avec une difficulté, et le mot est faible, de vivre au quotidien. Donc la priorité des Gazaouis aujourd'hui, c'est surtout que les combats ne repartent pas. Et les dernières déclarations de Netanyahou disant que de toute façon la guerre reprendra, ça c'est, c'est inenvisageable pour les Gazaouis, tellement ils ont souffert de la situation de cette guerre. Donc leur priorité, c'est loin de toutes ces discussions dont on peut entendre parler sur la scène internationale, de savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place comme administration. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que l'aide humanitaire rentre de façon massive et qu'on leur permette de reconstruire leur maison et de pouvoir reconstruire les hôpitaux et les écoles pour sortir de ce cauchemar. Donc je crois qu'il y a aussi forcément dans cette situation un décalage entre la réalité sur le terrain de ce que souhaitent les populations et puis les idées effectivement élaborées. Donc en l'occurrence, Biden, l'administration Biden avait commencé à élaborer. Parce que ce qu'il faut quand même rappeler aussi, c'est qu'il n'y a aucune proposition qui vient d'Israël. Le jour d'après n'est absolument pas envisagé par Israël, parce que Netanyahou n'est absolument pas en mesure de l'envisager ce jour d'après. Et ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Et donc, quand il dit que la guerre va finir par reprendre, on ne peut que s'inquiéter de se dire...
C'est un vrai risque.
C'est un risque. C'est un risque parce qu'on voit bien que... Alors, je vais peut-être utiliser une phrase qui va peut-être vous choquer, mais je pense que Netanyahou, aujourd'hui, est ivre de ses victoires militaires sur le terrain, que ce soit à Gaza, maintenant le voit en Jordanie, au Liban, jusqu'en Iran. Et que donc, pour lui, il est hors de question d'aller vraiment à une paix, parce qu'il ne sait absolument pas quoi en faire et qu'il sait surtout qu'à la clé, eh bien, il va y avoir des commissions d'enquête, il va y avoir des éléments qui peuvent le mettre en difficulté. Donc,
c'est toujours la pression judiciaire qui le freine dans la,
c'est ça,
la
c'est
recherche
un élément.
D'une solution politique.
Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'il est convaincu de ce qu'il est en train de faire et il est convaincu que de toute façon, il faut par tous les moyens faire partir les Palestiniens, non seulement de la bande de Gaza, mais maintenant on le voit de plus en plus, de Cisjordanie. Et donc parler de paix d'administration, c'est le cadet de ses soucis.
Stéphanie Latt Abdallah, est-ce que vous partagez ces craintes et également le scepticisme un peu surprenant de Donald Trump, hein, juste après son entrée en fonction, sur la mise en œuvre complète des accords de trêve?
Ah ben oui, enfin on ne peut qu'espérer qu'ils tiennent, mais effectivement, on voit bien que Netanyahou a promis plus ou moins à son extrême droite, en tout cas à Bezalel Smotrich et peut-être même à Ben-Gvir qui reviendrait à cette occasion, peut-être de reprendre la guerre. Alors je ne sais pas s'il la reprendra, parce que on parle d'Israël comme si il était vainqueur de cette guerre, mais il n'a pas gagné cette guerre, personne n'a gagné cette guerre. En fait, on est aussi face à une situation en Israël où la moitié des réservistes ne se présentent plus pour retourner à Gaza, où l'économie a été très fortement impactée par cette guerre à Gaza, et donc il est obligé de gérer à la fois une opinion intérieure qui veulent aussi voir revenir tous les otages, hein, et pas seulement ceux de la première phase. Il faut dire qu'il y a des familles qui sont de plus en plus mobilisées. Il est aussi peut-être face aussi à des Américains qui, certes, en tout cas à un Donald Trump qui peut-être ne veut plus continuer à investir les mêmes sommes que celles qui ont été jusque-là données à Israël pour la guerre. Il faut savoir pour l'armement, qui est quand même des sommes très importantes, toute la politique de mobilisation des sociétés civiles qui ont conduit la plupart des pays finalement à arrêter les ventes d'armes à Israël, au moins à les suspendre, fait que Israël dépend beaucoup plus encore des États-Unis qu'il ne dépendait auparavant.
Absolument. Et ça sera le mot de la fin, et on restera également sur ce qu'a dit Agnès Levallois, hein, l'humanitaire d'abord au service des populations de Gaza avant les solutions politiques pour la gouvernance, toujours introuvable, de l'enclave palestinienne. Merci Agnès Levallois, auteur du Livre Noir de Gaza, édition du Seuil. Merci Stéphanie Latt-Abdallah, apparaître Gaza, une guerre coloniale, aux éditions Actes Sud. Merci à vous deux.